France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. C'est un indicateur que l'on a vu apparaître sur les emballages de produits alimentaires il y a 4 ans en France, basé sur un code couleur qui va du vert au rouge et des lettres de A à E. Le Nutri-Score sera-t-il imposé à toute l'Europe? C'est ce que souhaite la Commission et le Parlement va commencer à en débattre à partir d'aujourd'hui. Bonjour Serge Herberd.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, professeur de nutrition à l'Université Sorbonne Paris Nord. C'est vous qui avez inventé ce Nutri-Score avec votre équipe. On se souvient de la bataille féroce qu'il y avait eu en France à l'époque avec notamment les industriels. Là, on est reparti pour un tour, mais cette fois puissance 1000.
Oui, tout à fait. Dans l'histoire du Nutri-Score, on est habitué, lorsqu'on s'oppose à certains intérêts économiques, à avoir des lobbies qui montent au créneau. C'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque l'agenda politique amène à remettre Nutri-Score au cœur des discussions.
Alors, parmi les opposants, là, on entend beaucoup ceux qui disent défendre les terroirs, comme par exemple le Roquefort qui est gras et qui sera donc forcément mal classé. Pareil pour le parmesan et l'huile d'olive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend beaucoup de critiques venues d'Italie. Votre Nutri-Score nuit aux produits du terroir ?
Non, pas du tout. Ce sont deux notions très différentes. Être ancré dans le terroir, répondre à un savoir-faire ancestral, faire pâtu pâtiment gastronomique, c'est très bien. Mais le label de qualité qui correspond à ces différentes dimensions ne confère pas au produit une bonne qualité nutritionnelle. Donc il faut informer à côté du label de qualité sur la réalité de la composition nutritionnelle. Et un produit gras et salé, même s'il a un label de qualité, reste un produit gras et salé. Le consommateur doit savoir.
Mais ça veut dire que, par exemple, pour la santé, hein, c'est ce que vous nous dites, hein, il ne faut pas tout mélanger, mais juste pour des critères de santé, il vaut mieux manger peut-être un fromage industriel, un petit carré de fromage allégé plutôt qu'un bout de roquefort.
Alors non, pas vraiment, si vous voulez. Le fait qu'un produit soit mal classé par le Nutri-Score, qu'il a un D ou un E, ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. Ça alerte seulement le consommateur que s'il choisit ce produit, ce qui est entièrement son droit, il doit le consommer en quantité raisonnable. Donc l'idée, c'est d'aider les consommateurs à comparer les produits entre eux dans une même catégorie. Et s'ils veulent manger, et c'est tout à fait possible, du roquefort ou un autre fromage, eh bien ils doivent simplement savoir qu'ils doivent être raisonnables sur la consommation.
Parmi les reproches qui sont faits également à votre Nutri-Score, on dit voilà, votre Nutri-Score ne prend pas en compte par exemple les additifs qui permettent à des industriels de faire des produits ultra transformés et d'afficher des scores favorables.
Alors, tous les logos nutritionnels ont un certain nombre de limites. Entre autres, Nutri-Score, comme tous les autres, ne prend pas en considération les additifs ou la présence de pesticides. Mais il fournit des informations sur la qualité nutritionnelle qui a été démontrée scientifiquement comme ayant un impact sur la santé. Il y a plus d'une cinquantaine d'études qui montrent que le fait de manger des aliments mieux classés par le Nutri-Score réduit le risque d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancer ou de diabète.
Mais en fait, votre Nutri-Score, il est calculé comment? Quels sont les critères?
Eh bien, le Nutri-Score prend en considération à la fois les éléments défavorables qui peuvent être à l'intérieur de l'aliment, le sucre, les graisses saturées, le sel, les calories, et puis également les éléments positifs. Est-ce qu'il y a des fruits et légumes dans l'aliment? Est-ce qu'il y a des fibres, des protéines? Et au travers de ces différents éléments positifs ou négatifs, c'est bien plus large. Le fait de prendre en considération les protéines veut dire qu'on prend en considération de façon indirecte le calcium ou le fer, où les fruits et légumes représentent un peu les vitamines. Donc, c'est quelque chose de large et qui a été validé scientifiquement comme ayant un intérêt de santé publique.
Et est-ce que ce Nutri-Score peut être complété, amélioré? Est-ce qu'il y a des évolutions prévues?
Oui, bien sûr. Alors, les améliorations qui sont prévues, qui sont en cours d'ailleurs d'être réalisées par un comité scientifique européen, portent sur les éléments pour lesquels il y a des progrès en termes de connaissances scientifiques. Donc oui, il va évoluer, c'était prévu depuis le départ, mais sur des bases scientifiques et pas pour répondre à l'intérêt de secteurs économiques ou certains États qui défendent leur secteur agroalimentaire.
Alors je reprends un autre argument de ceux qui se battent contre votre Nutri-Score. Il y a ceux qui disent, mais ce système ne prend pas en compte la notion de quantité. Donc par exemple, l'huile d'olive qui est moins bien notée qu'une bouteille de coca sans sucre, sauf qu'on ne boit jamais un verre d'huile d'olive, alors qu'on va boire plusieurs litres de coca.
Alors, tout à fait, mais ce qu'il faut, c'est comparer des choses qui sont comparables. Coca-Cola versus huile d'olive, on ne se sert pas de Coca-Cola pour assaisonner sa salade, et quand on a soif, on ne va pas boire une canette d'huile d'olive. Donc, il faut comparer l'huile d'olive aux autres huiles, ou le Coca-Cola à d'autres boissons. Et là, on voit que le Nutri-Score permet réellement d'informer le consommateur. L'huile d'olive est l'huile la mieux classée par rapport aux autres huiles ou par rapport au beurre, ce qui est tout à fait dans le sens des recommandations de santé publique. Et un Coca-Cola est mal classé par rapport à un jus de fruits qui est plus mal classé que l'eau.
En fait, votre Nutri-Score, il faut tout simplement pas lui faire dire ce qu'il n'est pas.
Absolument, Nutri-Score, c'est un logo nutritionnel, ça renseigne sur la composition nutritionnelle. À côté de ça, il faut s'intéresser aux ingrédients pour pas consommer d'additifs.
Ça ne dit pas si c'est bio, si c'est de l'élevage intensif, si le paysan est bien payé ou pas, tout ça, ça n'entre pas en compte dans votre classement.
Absolument, ce sont des dimensions différentes, dont certaines sont accessibles. On peut éviter les produits ultra-transformés en regardant le fait, dans la liste d'ingrédients, qu'il n'y ait pas trop d'additifs. Il y a un label bio pour informer. Et le consommateur doit arbitrer dans ces différentes dimensions. Mais s'il suit déjà le Nutri-Score, il y a déjà un effet favorable par rapport à la santé.
Alors ce Nutri-Score, hein, il est en place dans 6 pays de l'Union Européenne pour le moment. Il n'est pas obligatoire, hein, ça reste sur la base du volontariat. Mais est-ce qu'en France, il a tout de même fait ses preuves? Est-ce que par exemple les ventes de produits mal notés baissent? Est-ce que vous constatez que les industriels modifient les recettes?
Alors oui, on a des données qui montrent dans les supermarchés que la vente de produits D et E est en train de diminuer légèrement. Celle de A et B est en train d'augmenter. Il ne faut pas penser que le Nutri-Score va empêcher de consommer des produits qui sont mal classés. Simplement, il va permettre de diminuer les consommations excessives et on commence à le noter au niveau industriel. Et puis, on voit que ça intéresse les consommateurs puisque 90% des consommateurs le plébiscitent.
Merci beaucoup Serge Erkberg. Vous êtes le fondateur de ce Nutri-Score et vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.